J'avais travaillé avant de présenter Isabelle, que je connais un peu, pas très bien, qui m'impressionne beaucoup par tout ce qu'elle publie. Si jeune, d'ailleurs, il faut dire les choses. Très active, très organisée, très bon chercheur. Bon, moi, je plaisante pas du tout. J'avais donc préparé un petit topo, d'autant que j'ai son CV sur mon ordinateur et ses publications. Alors, ce que je peux vous dire, qu'elle a passé sa thèse en 1996, que sa thèse portait sur la parure, le corps, et sont des sujets qui sont devenus, on va dire, à la mode, et qui sont des thèmes fédérateurs de la recherche, mais elle a un petit peu anticipé d'ailleurs, elle était une des premières à travailler sur ces concepts de corps et de parure corporelle. Et elle l'a publié, ce qui est rare finalement de publier sa thèse, c'est pas toujours fréquent, en 2003, voilà, 2003, objet de parure et de toilette dans... bon bref, voilà, j'ai un petit peu oublié le titre. Et Isabelle donc est chercheur associée, bon, dans des équipes de recherche, mais elle a comme fonction, donc elle est assistante de, je crois, de conservation au musée de Chauvigny. Vous voyez, j'ai un peu de mémoire, parce que là, je... Voilà. Et donc, elle travaille sur le terrain, mais aussi, elle a comme appétit, donc, justement, cette recherche sur les industries, sur les artisanats. Elle collabore avec Max Aubrin à la revue semestrielle Instrumentum, qui est un outil de recherche tout à fait exceptionnel. Moi, j'aimerais bien que Lorient... mais enfin bon, on ne peut pas tout, hein. Ça va peut-être venir, enfin, mais on en profite beaucoup, nous les orientalistes, parce que c'est une mine de renseignements et de méthodes aussi qui nous sont proposées. Donc on est particulièrement heureux de l'accueillir ce soir, parce que Isabelle donc, travaille sur le verre, elle travaille sur l'os, sur la tabletterie, etc., sur des domaines qui sont généralement un petit peu hors céramique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc aujourd'hui, on va écouter un petit peu sa synthèse, je pense, sur des activités que l'on trouve dans le centre-ouest. Merci Isabelle.
Merci à vous, je vous remercie de l'espace Perma d'Espance de m'avoir invitée, et puis l'équipe Perma aussi, qui en est à l'initiative. Donc oui, je ne veux pas donner l'impression de travailler sur tout non plus, parce qu'on ne peut jamais travailler sur tout. Mais il est vrai que quand on commence à travailler sur une catégorie ou certaines catégories de mobilier archéologique, sur une période, on s'aperçoit que non seulement on s'intéresse à des objets certes finis, mais que nécessairement on aborde aussi leur histoire technique et la façon dont ils ont été fabriqués. Donc depuis la parure et les soins du corps, j'ai été amenée à réfléchir aussi sur certains aspects de l'artisanat de l'époque romaine. Donc là, je vous propose ce soir, non pas une synthèse, parce que ce serait prétentieux et quasiment impossible en l'état actuel des données, sur ce que j'ai appelé le monde des petits artisans du centre-ouest à l'époque romaine. Alors cette expression des petits artisans, je ne l'ai pas inventée, je la reprends à Jean-Paul Morel, qui dans son article, je pense que tous ceux qui ont travaillé sur cette époque le connaissent, dans son article sur l'artisanat dans l'ouvrage L'Homme romain, écrit « Les petits artisans, entre guillemets, ce sont les artisans épars dans les villes et les bourgs, fabricants ou réparateurs des produits de luxe ou des objets de la vie quotidienne, ce sont les travailleurs de la production de masse. » Et il écrit un petit peu plus loin « Tout observateur du monde romain, pourvu qu'il soit lucide et de bonne foi, ne peut qu'être frappé par l'immense quantité de biens manufacturés qui ont été produits, échangés, consommés et dont l'archéologie met inlassablement au jour les vestiges. » Donc en fin de compte, j'ai un peu voulu partir de ce constat-là, qui est une évidence pour tout archéologue qui travaille sur n'importe quel territoire, quelle que soit sa taille, et vous proposer, à travers deux artisanats spécifiques qui sont le travail des alliages cuivreux, que j'appellerai bronze par facilité le plus souvent, et le travail des matières dures animales, l'os et le bois de serre. Donc vous proposer une première approche de ce monde des petits artisans, qui sont généralement peu visibles autrement que par l'archéologie. Donc là, comme j'ai trop attendu, voilà, il n'aime pas qu'on attende. Voilà, donc je travaille essentiellement, là je vais vous parler d'un travail fondé uniquement sur les sources de l'archéologie, qu'elles soient programmées ou préventives. Donc j'exclus les sources iconographiques qui, dans le centre-ouest, ne sont pas très abondantes, contrairement à l'est des Gaules par exemple, mais qui peuvent néanmoins être utilisées, par exemple les blocs avec des scènes figurées ou les stèles funéraires. Je me concentre sur les données archéologiques. Et j'essaie de répondre à plusieurs questions. Quelles traces nous ont laissées ces artisans? Où sont-ils installés? Et au final, quelle place ont-ils dans la société? Du moins, que peut-on déduire des observations pour répondre à ces questions? Donc, je vais aborder de trois manières le sujet, voir quelles sont les structures qui sont mises au jour et quels sont parfois les moyens de production qui sont également découverts, les produits finis, qui existent toujours, associés ou non à des contextes artisanaux, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter sur ceux qui les ont fabriqués, et l'implantation de ces artisans dans les différents lieux dont je vais vous parler. Alors bien sûr, j'ai choisi des exemples, donc des sites archéologiques, et je vais tenter donc de vous montrer plusieurs aspects du sujet. Là, ce que je veux surtout montrer aussi, c'est que ces données sont très variées, aussi bien par leur contenu que par leur nature. Enfin, tous ceux qui ont mis les pieds sur un site archéologique ont pu s'apercevoir que ce soit sur un habitat ou que ce soit dans un sanctuaire, voire sur un théâtre, on peut tomber, entre guillemets, sur des vestiges de nature artisanale, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de la matière, alors qu'a priori, on ne pouvait ne pas s'attendre dans cet espace-là à trouver ce genre de traces. C'est cette spécificité de cet artisanat-là que je veux un peu souligner dans cette présentation. La zone géographique concernée, c'est à peu près le nord de l'Aquitaine, avec quelques sites, vous verrez, qui se concentrent surtout dans un axe qui va de Saintes à Bourges, un peu au gré, bien sûr, des études que j'étais amenée à faire et des données qui sont disponibles et qui sont variables d'un site à l'autre. Donc, je prends des exemples pour le premier point qui concerne les structures et les moyens de production et quels sont les vestiges archéologiques dont nous disposons, avec des exemples issus des deux capitales de cité, Poitiers et Saintes. Des exemples dans les agglomérations dites secondaires, donc que je considère des milieux semi-urbains et non pas complètement ruraux. Et puis, j'évoquerai de façon beaucoup plus marginale ce qui se passe dans les domaines agricoles, dans les villas. C'est un sujet qui devrait faire l'objet de recherches vraiment spécifiques et que je ne ferai qu'aborder très ponctuellement. Dans ces différents sites archéologiques, quel que soit leur milieu, la nature des vestiges varie, c'est ce que je vous ai dit déjà un petit peu. Ce sont soit des bâtiments qui sont d'emblée identifiables comme artisanaux. Je pense au quartier fouillé à l'emplacement des Cordeliers, où il est clair qu'on a mis au jour un ensemble de boutiques et d'ateliers. Parfois, ce sont simplement des structures, des restes de fours, des dépotoirs avec des rejets de fours, d'outils, de chutes de découpe, etc. Des outils qui attestent que quelqu'un les a utilisés avec un savoir-faire. Parfois, ce ne sont que les déchets d'une activité artisanale qui sont découverts en dehors de toute autre structure. Et ces déchets peuvent être des rebuts, des objets ébauchés ou des produits finis. Et les uns, comme les autres, ne sont pas nécessairement associés. Donc, en fin de compte, approcher les artisans, c'est volontairement se pencher sur une multitude de données dont la nature varie considérablement. Par exemple, je commence par Poitiers avec deux exemples principaux. Le premier, c'est à l'emplacement de la rue Houdin. Donc, c'est une fouille ancienne préalable à la fouille de l'îlot des Cordeliers qui est sur le même endroit. C'est une fouille menée à la fin des années 70. Qui déjà avait repéré à cet emplacement l'existence d'un quartier avec boutiques et ateliers, et dont on a notamment site sur lequel on a notamment mis en évidence l'existence d'un artisanat de l'os, avec la présence tout à fait évident de rejet osseux, donc de matière osseuse travaillée et déjà après mise en forme, des déchets relatifs à la production d'objets que l'on identifie très bien au fil de leurs études, c'est tout simplement la production de petites cuillères en os, cuillères que l'on trouve abondamment sur de nombreux sites gallo-romains. On trouve aussi des déchets sur ce même site qui annonce la fabrication d'autres types de cuillères, ce type de cuillère à spatule allongée. Ça, c'est un exemple. En dehors, on va dire, d'autres structures qu'un bâtiment. Et c'est, comme c'est une fouille ancienne, c'est aussi les seuls vestiges qui nous restent qui attestent l'existence d'un artisanat spécialisé ici dans une fabrication d'un ou deux types d'objets. Certainement aussi d'autres productions ont été faites. Et l'on peut, grâce aux observations, restituer un petit peu la chaîne opératoire qu'a suivi l'artisan. Parfois il a fait des ratés, parfois il a commencé à amorcer les formes. Il est parvenu à faire des objets finis. Enfin, toutes les études qui ont été faites sur les sites comparables comme Chartres, par exemple, permettent d'aborder les techniques de cet artisan spécialisé dans le travail de l'os, qu'on appelle aussi tablettier en empruntant un terme moderne. Exemple, donc sur ce site de la rue Houdin, on va trouver plutôt ce qu'on a des déchets de travail et des objets ébauchés et des objets finis. C'est un exemple qui se reproduit sur d'autres sites. Autre site de Poitiers, le quartier de l'ancien évêché, donc en partie à l'emplacement du bâtiment dans lequel nous sommes, où un quartier d'habitation a été fouillé dans les années 80 et où d'emblée, lorsque l'on observe le mobilier, que l'on reprend les données archéologiques, on s'aperçoit qu'il y a eu une activité artisanale, qu'elle n'est pas très visible d'emblée à la fouille, parce qu'il faut approfondir et un petit peu éplucher les données qui se sont succédées. Néanmoins, on peut restituer dans une des maisons, et pour une époque qui est la fin du IIe siècle, l'existence d'une activité liée au travail du métal et probablement des alliages cuivreux avec la découverte d'un creuset et les vestiges d'un travail de la matière osseuse qui ont été découverts dans le comblement d'un des bassins liés à cette maison et à ses diverses occupations. Dans le même quartier, à une époque ultérieure, fin 3e, début 4e siècle, c'est dans cette maison, la maison B, comme l'ont dénommé les archéologues, où là s'installe également un atelier avec des foyers, ce sont les petites taches oranges. Et il y a, de la même manière, encore un travail lié à la matière osseuse avec quelques déchets significatifs et quelques objets finis ou amorcés. Ce site est un exemple aussi assez frappant de l'imbrication qu'il peut y avoir entre zone d'habitat et, on va dire, activité artisanale. C'est souvent le cas, si on regarde bien, vous verrez d'autres exemples. C'est même le sujet d'un colloque qui a eu lieu à Aix, en Provence, qui voulait souligner les liens souvent très important entre les lieux de vie et les lieux de travail et que les uns évoluent en même temps ou les uns après les autres. On verra avec Sainte, par exemple, qui est un très bon exemple. Je ne vous parle pas du quartier des Cordeliers en tant que quartier d'artisanat et de boutique très spécifique parce que la publication, d'une part, est à venir et que les données donc, seront disponibles, j'espère, prochainement, mais là ça serait pour Poitiers un autre exemple où l'habitat est a priori moins présent, mais vraiment là on est en présence d'un quartier commercial davantage. Ici, le quartier de l'ancien évêché serait plus un quartier où habitation et artisans se sont mêlés, on va dire, de façon différente. Sainte, alors Sainte, autre capitale de cité. Il y a, vous le verrez à la fin, à Sainte, beaucoup de fouilles qui ont permis de mettre en évidence la trame artisanale de cette ville. Et je prendrai l'exemple uniquement du quartier d'Obono, qui est une fouille menée par le Conseil général en 2001 et qui a été étudiée récemment pour mettre en évidence notamment les liens entre l'artisanat, enfin les différents artisanats attestés sur ce site. Donc ce site se caractérise, la présence d'un axe vière qui le traverse, mais surtout ici dans cette partie d'une zone de bâtiments de taille modeste avec des cours et une série de caves semi-enterrées qui ont livré des vestiges liés à la matière, au travail de la matière osseuse, mais aussi à des activités de boucherie. Et là, grâce aux études qui ont été menées conjointement par Marilyn Salin, qui est une archéozoologue, par Karine Robin, qui est l'archéologue qui a fouillé le site, et moi-même, nous avons pu mettre en évidence qu'il y a presque quasiment une activité en circuit fermé qui va de l'exploitation de la viande, essentiellement du bœuf, jusqu'à l'exploitation de la matière dure animale et la production, vous le verrez, de quelques objets finis. Donc les vestiges se présentaient de cette manière-là, dans des structures, je vous l'ai dit, fermées type cave, avec un dépôt ici de tronçons de colonnes vertébrales de bœuf et de différentes parties de squelettes dont on a pu déceler quels morceaux de viande le boucher produisait. Alors là, je ne m'en souviens pas de tête, je vais vous les dire parce que c'est assez technique. Mais il a produit des morceaux de viande destinés à la consommation qui sont l'équivalent de ce que peuvent nous proposer nos bouchers actuels. Donc là, je ne vais pas le retrouver. Si voilà, il a effectivement préparé des morceaux de viande tels que la gîte, le jumeau pour le pot-au-feu ou du rhum steak ou des choses comme ça. Donc c'est surtout pour vous dire qu'un archéozoologue qui va examiner en détail les rejets d'une activité de boucherie va pouvoir déterminer ce que la boucherie a produit, voir si elle est spécialisée dans un certain type de morceaux de viande, et que ça aussi, ce sont des données qui sont toujours intéressantes. Les rejets liés à l'artisanat se trouvaient dans une autre structure toute proche. Et là, il s'agissait de rejets type, c'est-à-dire d'extrémités d'os qui ont été prélevées avant travail et de découpe de la boucherie, qui sont destinés à mettre de côté les ossements que l'artisan qui va fabriquer des objets, lui, va utiliser. Donc sur ce site, l'enchaînement est relativement clair et il était très intéressant à étudier. Et au final, voilà ce qui a été produit sur le site de façon quasi certaine. Ce sont des éléments de charnière, donc de meubles pour coffre ou armoire, qui sont issus des osselons de bœuf. Ce sont soit des éléments de meubles, soit des manches d'instruments divers, des fuseaux avec fusaïoles, des quenouilles et des médaillons en bois de serre, puisque le bois de serre était aussi présent sur le site sous forme de moins importante, mais également présente pour le travail artisanal. Donc on a pu observer depuis les vestiges osseux, et la proportion d'osselons mis de côté à un moment donné et les objets finis tels qu'ils ont été découverts à proximité, cette chaîne totale qui s'était mise en place au sein de ce quartier. Sachant qu'à l'intérieur de ce quartier, il y a aussi des indices de travail des alliages cuivreux, mais qui restent très épars, beaucoup moins exploitables. Donc on est là en face d'un quartier où il y a des artisans qui se sont mis côte à côte et qui ont travaillé en complémentarité, en quelque sorte. On sort des capitales de cité pour aborder quelques exemples situés dans les agglomérations autour de Poitiers, les agglomérations dites secondaires. Là, je prendrai l'exemple du Saint-Pierre-les-Églises, donc sur la commune de Chauvigny, sur l'axe Poitiers-Bourges, où tout simplement, on a pu observer sur une des zones d'habitat de cette agglomération que là, en l'occurrence, le travail du fer qui était présent dans l'habitat augustéen disparaît ensuite quand une maison s'installe au milieu du 1er siècle après J.C. L'artisanat et son installation disparaissent pour laisser place à une maison avec une cave, etc., et des foyers. Ça, c'est une constante quand on observe les structures artisanales, c'est que souvent, elles cèdent la place à un moment donné à l'habitation, ou c'est l'inverse. Et c'est ce qui montre que ce monde artisanal évolue en même temps que les trames urbaines des villes, petites ou grandes, évoluent. Dans un autre secteur de l'agglomération de Saint-Pierre-les-Églises, une autre zone d'habitat, c'est un petit four de métallurgiste qui a été mis au jour. Et c'est un four de potier qui a été aussi dégagé pour un habitat daté du 1er siècle. Donc là, on est en présence dans un autre quartier de la ville d'une activité artisanale installée, et ce, dès les premières décennies du Haut Empire. Autre agglomération secondaire dont je parle, mais Nadine en parlerait beaucoup mieux que moi, Nadine Dieudonné-Glade, bien sûr. C'est une agglomération donc, que vous connaissez tous et qui a fait l'objet de fouilles dirigées par Nadine et puis en 2007 par Philippe Poirier, sur le même secteur notamment, celui de la Petite Touche, où déjà avait été mis en évidence la conjonction des activités artisanales, travail du fer, travail des matières animales, matières dures et aussi de la peau. Et je prendrai seulement deux phases de cet quartier de la Petite Touche et d'un des secteurs de ce quartier où Nadine avait mis en évidence qu'une forge fonctionnait dans un des bâtiments de ce secteur, en même temps qu'un atelier travaillait les peaux à proximité dans la deuxième moitié du IIe siècle, et qu'au IIIe siècle, il y a une évolution dans cet îlot urbain où la forge a été modifiée, sa structure a été modifiée, mais elle semble continuer d'exister, mais que cette fois-ci, c'est une activité de boucherie qui est détecté avec une forge qui s'installe en bordure de voie. Cet exemple est pris ici, et Nadine, dans ses conclusions sur son étude, le mettait très bien en évidence, c'est qu'il y a une perpétuelle évolution de l'emplacement des installations des artisans au fil des périodes. C'est en fin de compte des gens, enfin, si je peux le résumer comme ça, qui vont bouger facilement, bien sûr sur plusieurs générations, mais qu'il y a ainsi, c'est un monde en mouvement, en quelque sorte, pour caricaturer. Un travail des alliages cuivreux aura lieu dans ce même secteur, là donc, alors que la forge ne fonctionne plus, à la période de la fin de l'occupation du site, c'est-à-dire au 3e et plutôt au 4e début du 5e siècle. Donc, on voit que non seulement les activités changent les unes après les autres, mais elles peuvent se succéder et être de nature différente. Donc là, je renvoie aux études de Nadine qui sont nettement plus précises sur ce site. Autre agglomération secondaire, c'est Muron, donc en Charente-Maritime, où à l'occasion de la création du contournement, une zone d'habitat a été mise en évidence. Et ce sont dans les structures en creux, donc qu'on appelle généralement les dépotoirs, qu'ont été mis au jour des vestiges de travail des alliages cuivreux. Donc vous voyez, c'est relativement ténu d'un point de vue archéologique, d'une lisibilité assez peu évidente. C'est simplement une structure d'habitat. Dans un quartier, en plus, vous voyez, la fouille est évidemment dans l'axe de la route. Donc ce n'est qu'une vision partielle de l'agglomération. Et c'est grâce à la découverte de dépotoirs et de leur contenu que l'on peut déduire ce qui a pu avoir lieu comme activité. Un fragment de moule était conservé dans une des structures en creux. Et puis sur le site, dans cette même zone, ont été découverts des éléments de fibules assez caractéristiques. C'était des petites fibules que l'on retrouve notamment sur la façade atlantique, sur d'autres sites, et dont on peut supposer, c'est du moins ce que j'avance, qu'il y ait eu une production à Muron au vu des vestiges proposés. Donc, autre exemple d'une présence d'un artisan dans la première moitié du 1er siècle, mais d'une présence dont il reste en fin de compte des vestiges, là encore, relativement ténus. Autre agglomération secondaire, c'est cette fois-ci, on revient au territoire picton, sur l'axe Poitiers-Bourges, au bord de la Gartempe, donc une agglomération secondaire qui s'étale sur une 25 hectares environ, et la fouille qui a porté sur cette zone, qui est un sanctuaire, a conduit, contrairement peut-être à ce qu'on aurait pu s'attendre, à mettre au jour des vestiges de nature artisanale. Pardon. En particulier, à une période qui est la seconde moitié du 1er siècle, voire le début du 2e siècle, lorsqu'on reprend toutes les données stratigraphiques et les mobiliers découverts, on constate l'installation contemporaine d'un bronzier dont on a découvert les restes d'un four, deux dépotoirs qui se présentent, vous voyez comme ça, ces petites structures en creux qui au départ apparaissent comme des taches noires qu'il faut fouiller en totalité, dans lesquelles on trouve des choses très intéressantes. Et puis dans une pièce ici à proximité de l'atelier de bronzier, le rassemblement de déchets d'osselons de bœuf, et notamment des extrémités de ces osselons qui avaient été jetées là parce qu'on avait récupéré d'autres parties des os. Donc ces vestiges artisanaux sont complètement intégrés, si vous regardez bien le plan, au sanctuaire, puisque le sanctuaire à cette époque-là est bien délimité sur ses trois côtés par ce qu'on appelle un mur péribole ou une enceinte, comme vous voulez. Qu'à l'ouest, c'est le rocher naturel qui affleure et qui fait un ressaut qui, en fin de compte, est sa limite, qui matérialise sa limite, et qu'à l'intérieur du sanctuaire, des artisans ont été autorisés à s'installer, peut-être, pour travailler sur une période qu'il est difficile d'évaluer. Et vous le verrez plus loin, on a pu un peu déterminer ce qu'ils ont fait, ces artisans, à partir des déchets découverts. Donc là, c'est un autre exemple de l'apparition des artisans. On n'est plus en contexte d'habitat, on est dans un lieu cultuel. Et l'on sait en Italie et autres, par des documents écrits et puis des vestiges archéologiques, que les artisans sont là. Jean-Paul Morel encore a décrit souvent que les artisans aiment venir se mettre sous la protection de leur dieu auprès des temples et s'installer dans des boutiques qu'ils accolent au plus près des monuments. Ici, nous avons un exemple peut-être d'une pratique similaire, ou du moins d'une relation entre un lieu lieu cultuel et d'activité artisanale. Ça a fait l'objet d'un article à paraître dans les actes du colloque d'Autun. Autre lieu où l'activité artisanale n'est pas évidente a priori, c'est le théâtre de Drevan. Donc on rejoint le territoire des Bituriges. Et plus à l'est, et ce théâtre qui fonctionne à partir du 2e siècle jusqu'au 3e siècle principalement, voit au sud une réoccupation à la période relativement tardive du 4e au 5e siècle, une réoccupation artisanale qui a très bien été mise en évidence par les fouilles programmées qui ont eu lieu sur le site, et où ont été constatées des activités liées à la matière osseuse, notamment aux boîtes cervidées, et puis également une activité de métallurgie du fer. Ça, je n'ai pas les données en détail, mais elles ont été étudiées, et ça figure dans les DFS. Et puis ont été découverts d'autres outillages qui attestent d'autres activités. Ici, vous avez un exemple des déchets de bois de serre découverts, des premières ébauches également mises en évidence, et puis des produits finis qui ont été découverts sur le site, ces fameuses fusaïoles que l'on peut presque considérer aussi comme un peu peut-être des porte-bonheur, du moins des objets symboliques autant qu'utilitaires, qui ont été fabriqués sur le site. Et là aussi, l'observation est de la matière osseuse, des déchets et des produits finis, mais très clairement en évidence que tout ça a été façonné sur place et qu'il y a un lien très net et que des artisans ont travaillé ici. Il y a aussi eu sur ce site des fabrications de peignes et peut-être aussi des réparations de peignes. Ça a fait l'objet d'une publication récente. D'autres outils ont été découverts dans cette même zone artisanale que je vous montrais tout à l'heure. Des sortes d'alènes peut-être pour travailler le cuir, c'est du moins les interprétations les plus récentes. Des ciseaux pour éventuellement travailler le bois. Bon, l'étude de tout cet ensemble est en cours parce qu'un abondant mobilier a été mis au jour lors de fouilles anciennes et des fouilles programmées récentes. Donc, ça sera à suivre à l'avenir. Donc là, on se trouve en contexte d'une agglomération, d'un autre type de lieu où les artisans s'installent à une période donnée. Là, je vous ai mis ces informations, c'est une fouille récente de 2007, dont l'étude est en cours. C'est un habitat dont la nature, on en discute encore, qui se trouve à la confluence du Clain et de la Vienne et du Clain, donc à ce nom, et où ont été découverts dans un niveau qui n'est pas un niveau d'occupation, un niveau où ont été rassemblés un certain nombre d'outils. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce que c'est en cours d'étude. Et on a trouvé notamment un marteau ciseau et un marteau poinçon qui attestent visiblement le travail d'un forgeron. Et d'autres types d'outils du style gouge à une extrémité et spatule avec extrémité fine en biseau à l'autre, qui attestent le travail de matière plastique. D'autres vestiges sont associés à ces trois objets, qui montre très clairement qu'un forgeron a fabriqué, réparé certainement des outils. Donc là, on est dans le cas d'une installation qui n'est pas dans une villa, qui est hors a priori d'une agglomération, sur un point stratégique néanmoins, et là l'artisan a pu être amené à participer aux travaux d'aménagement de géologie qui ont été faits sur cette zone, peut-être aussi à toute la construction de l'habitat. Donc l'artisan au 3e, 4e siècle est présent. Et les seuls témoignages qu'on en ait pour l'instant, ce sont ces outils. Donc là, pas de structure, ni de bâtiture, ni de zone avec de scories très, très prononcées, on va dire, mais quand même de l'outillage. De façon plus anecdotique, parce que là, c'est vraiment un sujet qui mériterait d'être repris, c'est l'artisanat dans les villas. Bon, d'autres en ont, beaucoup ont écrit sur le sujet, je ne prétendrai pas reprendre ce thème. Juste deux exemples pour vous montrer que c'est les artisans, enfin du moins le travail des matériaux est présent aussi dans ces contextes. Le tout étant de savoir après si c'est lié au fonctionnement même du domaine, comme c'est évidemment en partie le cas, et aussi à savoir si ces activités peuvent être destinées à l'extérieur du domaine agricole, et souvent les deux peuvent être bien sûr en commun. Donc deux exemples proches sur la villa d'Ambouri, donc en territoire au sud du territoire Picton, où à une occupation, dans les premières phases d'occupation de la villa, autour des années 30 et ensuite avant le milieu du 1er siècle, dans un des bâtiments annexes de la villa, eh bien, on a trouvé des portions de boîtes cervidées avec des traces de travail artisanal, sillage, mise en forme, début de mise en forme. Et également, il y avait un peu d'indices de travail des alliages cuivreux, mais relativement ténus. Et une activité de forge qui a été attestée notamment et qui a été étudiée par Nadine Dieudonné-Glade. Donc cette ville-là, à un moment donné de son histoire, un artisan, alors est-ce qu'il faut le qualifier d'artisan ou pas, ça pourrait être aussi être l'objet de débat, du moins un spécialiste, quelqu'un qui travaillait les matières animales, métaux, est intervenu et s'est installé dans un des bâtiments avec appentis, et dont les déchets ont surtout été trouvés dans cette zone. Autre exemple de villa, c'est une villa viticole en bordure de la façade atlantique. Vous savez qu'il y a de nombreuses villas viticoles qui bordent la façade de notre région et qu'elles sont toutes une activité viticole prédominante, mais qu'à un moment de leur histoire, et là c'est le cas de celle de Étré, d'autres activités sont observées. Et là, en l'occurrence, à un moment donné de l'histoire de la villa, plutôt vers la fin d'ailleurs de son occupation, au 5e siècle, un bâtiment est installé en dehors des bâtiments d'habitation et des bâtiments préexistants, dans lesquels là, un travail du fer a été mis en évidence avec scories, bâtitures, enfin les choses traditionnelles. Là, c'est un exemple pour vous montrer qu'à cette installation des artisans peut intervenir aussi bien en début de fonctionnement d'un site, pendant son fonctionnement et à la fin, lorsque le site change et évolue dans sa structure même. C'est un des aspects aussi de cet artisanat qui s'installe au gré des besoins et des évolutions de chacun des sites qui sont observés. Alors, Cette première partie visait à vous montrer la diversité des vestiges, voilà, et parfois la difficulté qu'on peut avoir à les lire lorsqu'ils ne sont pas évidents. Je ne sais pas, je pense au site qu'étudie en ce moment Antoine sur les ateliers de potiers de Martin. J'ai voulu toujours t'appeler Antoine. Bon, où plusieurs fours de potiers ont été découverts. Et là, on sait que c'est un atelier de potiers. C'est fantastique. Là, il n'y a pas de doute. Mais souvent, pour les artisanats dont je parle ici, c'est rarement le cas. On a rarement un four, les outils et les produits associés. Donc, quand on n'a pas ça, on a néanmoins les objets finis. Et dans mon cas, j'ai travaillé sur des objets en alliage cuivreux ou des objets en os. Et en l'occurrence, il est toujours possible, en les étudiant, d'avoir et d'obtenir des données sur les artisans qui les ont faits. C'est ça l'objet de ma deuxième partie. Alors, dans un premier lieu, il y a ce qu'on appelle les analyses typochronologiques. Ça, ce sont les études qui se fondent sur les observations des objets, la détermination de leur fonction, de leur utilisation. C'est ce qu'on va dire, ce qu'apprend à faire tout archéologue qui s'intéresse au mobilier au début de ses recherches. Et puis, par comparaison, par élargissement des comparaisons régionales, extra-régionales, on finit par avoir, un catalogue des objets finis présents sur un territoire. Il existe sur le centre-ouest pour certaines catégories. Ça, c'est une première approche. Mais une seconde approche est possible. C'est le cas des analyses physico-chimiques qui, là, peuvent nous apporter des éléments sur comment ont été fabriqués ces objets. Et en l'occurrence, pour les objets en alliage cuivreux, quel type d'alliage ont été utilisés et comment ils ont été mis en forme. Et là, vous verrez que des indices peuvent apparaître sur la détermination d'ateliers locaux et de techniques particulières à des artisans localisés dans certains endroits. Alors ensuite, pour le matériel osseux, par exemple, on regardera les traces laissées sur les objets par les outils, les ébauches en place, et on déterminera, comme je vous l'ai expliqué par exemple pour Dobono à Sainte, quelle a été la chaîne opératoire qui a pu être mise en appliquée sur un site. Et puis, il y a, c'est plus rare évidemment que sur le matériel céramique, mais parfois, on a la chance d'avoir sur certains de nos objets en alliage cuivreux des signatures qui nous font toucher du doigt l'existence d'artisans avec des noms. Et là, on se dit, ils existent parce qu'ils signent et ils mettent leur nom. Alors, exemple d'analyse physico-chimique pour les vestiges du sanctuaire du Gezio à Antigny. Cet ensemble a bénéficié d'une étude menée à Bordeaux sous la direction de Michel Pernaud par Amel Teki. Donc, il a pu être déterminé à partir des rejets, vous voyez ces petites chutes de découpe qui ont été découvertes dans les dépotoirs associés au four, que 4 alliages avaient été utilisés par le bronzier qui est intervenu sur le site. Des alliages dont les teneurs, soit c'est du cuivre non allié, du cuivre avec de l'étain à différents pourcentages, du cuivre avec de l'étain et du plomb, et même du cuivre où il y a également du zinc, donc avec 4 composants. Donc ça, ce sont des informations que l'on ne pourrait pas avoir si on ne pousse pas plus en avant les observations sur ces petits rejets que l'on a conservés du site. Un objet non fini a été découvert en association avec cet atelier. C'est le cas d'une fibule à arc circulaire. Et les analyses faites sur son matériau et sur les traces laissées par la mise en forme ont mis en évidence qu'elle a été faite à la fonte et non pas au martelage, comme cela aurait pu être supposé, et que pour cela, l'artisan a dû maîtriser parfaitement sa technique pour fondre une fibule qui a un arc épais de à peine 1 mm. Donc ça, c'était un indice technique qui n'était a priori pas évident à l'observation. Donc tout ça nous renseigne sur les techniques d'un artisan à un moment donné, sur le fait qu'il travaille plusieurs alliages. Les creusets qui étaient associés, qui étaient au nombre de 4, ont été faits en 2 argiles différentes. Des fragments de moule étaient présents également. Donc tout ça forme un ensemble qui a renseigné sur une production à un moment donné. De la même manière, Les déchets osseux ont été observés toujours par une archéozoologue, Marilyn Salin et moi-même. Et nous avons pu mettre en évidence que l'artisan qui avait jeté ses extrémités osseuses dans cette pièce, si vous vous souvenez, à l'angle du sanctuaire, avait recherché à conserver des parties centrales d'os d'un module particulier dans le but de fabriquer des éléments de charnière calibrés, et que ce n'est pas par hasard s'il avait choisi ces ossements. Le sillage était parfaitement réalisé sur 90% d'entre eux. Donc là est intervenu quelqu'un qui était spécialisé dans la préparation de la matière osseuse. En revanche, ce que l'on a pu mettre en évidence, c'est que cette matière osseuse qui a été prélevée a été vraisemblablement travaillée hors du sanctuaire, puisque aucun vestige n'atteste d'un travail postérieur ensuite. Ce qui veut dire qu'il y a, alors, à un moment donné dans le sanctuaire, une organisation entre la viande, les animaux consommés, c'est essentiellement du bœuf ici qui a été récupéré, les os prélevés issus de cette consommation de la viande par quelqu'un qui est autorisé à le faire, et le renvoi de cette matière prélevée vers un artisan qui est installé peut-être et fort probablement dans l'agglomération alentour. Toutes ces observations amènent et à s'interroger sur les liens entre un sanctuaire, la vie qui a lieu dans ce lieu de culte, le sacrifice d'animaux, leur consommation et la récupération des matières afférentes et leur exploitation à des fins artisanales et commerciales. Donc, vous voyez qu'on peut toujours aller au-delà des simples observations techniques ici. Alors, d'autres études ont été menées sur le mobilier du même site. Ce sont des analyses qui ont été faites sur des objets finis qui n'étaient pas associés au secteur de l'atelier de bronzier, mais qui ont été sélectionnés d'abord par le fait qu'on pouvait faire des analyses sur eux parce qu'ils n'étaient pas des objets d'un point de vue muséal très important, et que c'était une manière de voir ce qu'on pouvait tirer de telles observations. Donc, une autre étudiante, Aurélie Denoux, a travaillé ensuite toujours sous la direction de Michel Pernaud et a étudié une sélection d'objets provenant du sanctuaire pour mettre en évidence leur composition, à savoir ici du cuivre, de l'étain et du plomb, du cuivre ou du zinc, du cuivre et de l'étain, etc. et à déterminer les techniques mises en œuvre pour réaliser ces différents objets. Alors, ça peut paraître très basique, mais néanmoins, si on multipliait ce genre d'analyse à l'échelle d'une région, comme cela a été fait, vous le verrez tout à l'heure, en Bretagne romaine, on aboutirait peut-être à des observations et fort probablement à des observations signifiantes. Elle a, par exemple, abouti pour deux types d'objets que je vous ai mis juste à titre d'illustration. Pour la mise en forme des boîtes à sceller les correspondances, donc ici, elle a étudié les parties inférieures de ces boîtes, en observant la composition des alliages et la façon et les traces laissées dans la matière par les techniques de mise en forme, elle a pu déterminer qu'à partir d'un petit lingot en alliage cuivreux que l'on martèle, qu'on allonge, on fabrique un fond en redressant les parois et qu'on met en forme ainsi ces petites boîtes. De la même manière, en observant ce qu'on appelle un instrument de soin dont il manque ici la cuillère allongée, elle a pu mettre en évidence qu'on utilise une barre de métal qu'on allonge et ensuite on met en forme par déformation plastique les extrémités pour leur donner les formes voulues. Tout ça, en discutant avec Michel Pernaud, il me disait, mais en fin de compte, on ne sait rien de la façon dont est fait ce petit mobilier quotidien. Des études de ce genre, en fin de compte, on ne sait quasiment rien. On connaît mieux la statuaire, la grande, la petite statuaire, la vaisselle, mais tous les objets quotidiens, rares sont les études qui permettent de savoir tout simplement comment ils sont faits et en quel alliage ils sont faits. En Grande-Bretagne, ils ont été un petit peu plus précurseurs, puisqu'une étude a été menée sur à peu près 3000 fibules rassemblées et des analyses physico-chimiques ont été effectuées. Alors, eux ont la chance souvent d'avoir des moules. Nous, c'est quand même très rare en centre-ouest et hors du centre-ouest. Mais pour un type, par exemple, particulier de fibule romano-bretonne, donc issu de la Grande-Bretagne actuelle, si vous voulez, les auteurs ont permis, grâce aux analyses d'alliage cuivreux, de mettre en évidence que, de préférence, ce type particulier est fait dans un alliage de cuivre et de zinc, qu'on appelle le laiton, à 33%, que d'autres alliages sont utilisés dans des proportions différentes. Ça, ce sont des informations qu'elles ont collectées au fil des analyses, et elles ont pu déterminer aussi toujours la prédominance au fil des échantillons, des bronzes au plomb et puis du cuivre et du zinc qui sont majoritaires dans les différents types qu'elles ont observés. Bon, ça, ce sont des schémas un petit peu barbares à regarder comme ça de prime abord, mais c'est pour vous montrer le genre d'informations qu'il est possible de collecter quand on multiplie des analyses sur un ensemble donné. Les conclusions qui sont très intéressantes de cette étude menée en Bretagne romaine, c'est la détermination d'ateliers fabriquant certaines séries de fibules avec une diffusion relativement régionale, l'existence en parallèle d'ateliers diffusant des types de fibules sur une grande échelle en revanche, et ces conclusions ont pu être effectuées en croisant toutes ces données d'analyse et d'observation typochronologique. C'est un travail mené par mesdames Boucher et Bellet, et c'est un travail unique en l'occurrence en Occident. Espérons qu'un jour on puisse faire ça sur d'autres ensembles dans nos régions plus ou moins grandes. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une autre possibilité d'entrevoir ces artisans, c'est que parfois quand même ils nous laissent une trace sur les objets, c'est Orinus, c'est Domosclus et les autres. Ici, quelques exemples issus du centre-ouest, sur des fibules, une fibule de Béruge, une fibule de Niort, où on lit Glorus ou Florus, et ici Oxtalios ou Oxtasios, la lecture est souvent un petit peu difficile. D'autres exemples qui sont issus soit de fouilles récentes, une fibule de Barzan qui porte une estampille, une autre de la fouille de Saint-Éloi à Poitiers, et puis d'autres exemples, Ori pour Orinus à Saint-Pierre-les-Églises, Urcanus probablement à Poitiers, ou Domosclus dont je vous parlais à Niort. Alors bien sûr, ces signatures qui désignent toujours a priori un artisan ou un atelier ne sont pas forcément synonymes d'ateliers locaux situés dans le centre-ouest. C'est bien sûr une évidence puisque les fibules comme les autres objets circulent. Voici un état de toutes les signatures repérées sur fibules dans la région considérée. Il y a à peu près 13 signatures repérées et l'on peut considérer que deux d'entre elles, celles qui correspondent à Orinus et qui semblent pour l'instant, et elles ne sont pas signalées ailleurs, se concentrer un petit peu dans notre région. Je mets des guillemets, je parle au conditionnel parce qu'évidemment il faudrait étayer tout ça, semble être quand même d'une diffusion qui veut se centrer par ici. Et puis ici, il y a ce Tituris, qui semble apparaître de façon préférentielle aux abords de la Loire. Bien sûr, il faudrait que, pour que cette carte soit vraiment signifiante, que l'on fasse le tour à Sainte des fibules probablement estampillées et pas repérées, que dans la région de Bourges, on fasse de même et que sur le territoire, les Movis, on fasse de même, tout simplement parce que souvent, sur ces objets-là, ne sont pas observés de cette manière, que les estampilles peuvent être partielles ou effacées. Et donc, c'est des informations qui sont amenées à être collectées au fil des études. À Poitiers, une autre signature, mais sur un strigile d'importation italienne, apparaît un Urbanus, a priori, qui est conservé au musée de Poitiers. Donc vous voyez que là, c'est une autre manière d'aborder ces artisans qui reste évidemment à prendre encore avec précaution puisque les données sont à venir, enfin je veux dire, elles seront toujours à être confirmées. Et j'espère qu'un jour, on pourra confronter ces données et proposer des approches croisées avec ce qu'on sait des productions en terre cuite, céramique, tuiles, ou des productions en verre. Et là, David Guiton a bien voulu me prêter quelques documents et me fournir des productions qu'il rattache au centre-ouest, du moins entre les vallées de la Vienne et du Clain, soit des fragments de bols sigillés Drag 37, des signatures Succus fecit ou Taurus fecit sur une amphore également. Donc là, c'est un des objectifs du PCR sur les céramiques en territoire picton, que de confronter les données, bien sûr, sur les céramiques, mais à celles des autres mobiliers, et adresser ainsi une première approche des productions et de l'économie de cette région. Alors, je vous ai mis comme exemple ce que l'on connaît mieux sur d'autres productions de fibules. Ça, c'est les fibules qu'on appelle des fibules de type Osissa, qui sont considérées comme fabriquées en Italie et dans les abords du Rhin. Beaucoup d'exemplaires sont trouvés avec des signatures, Atrixtos le plus souvent, ou ses variantes, et des cartographies sont possibles. Là, c'est une variante de cette fibule d'Osissa qui est connue, signée Atrixtos. Les autres sont signées Osissa, d'où leur nom. Et on a une petite dispersion entre la Gaule du Sud et régions du Rhin et régions voisines. C'est des cartographies qui sont amenées à évoluer au fil des découvertes et il n'y a pas de raison qu'on puisse les compléter pour des zones qui sont plus à l'ouest. Là aussi, pour le plaisir de l'information, parfois, on a la chance de trouver sur d'autres matériaux, ici un peigne en buis, une signature d'un artisan ou peut-être de deux artisans. C'est l'interprétation qui a été donnée par Pierre Mille dans son étude en 2006. Où ce peigne présente cette inscription Saerissat, qui est interprétée comme peut-être deux noms d'artisans à coller, comme cela se fait sur de la vaisselle en bronze ou sur certaines productions sigillées, et qui démontre qu'il y a peut-être l'artisan et le diffuseur qui ont apposé leur marque. Donc malheureusement, je dirais, enfin malheureusement, non, ce peigne vient de Clermont-Ferrand, mais bon... Alors, pour troisième point et dernier point, l'implantation des artisans, que peut-on dire d'après les quelques exemples pris qui ne sont évidemment pas totalement suffisamment, qu'on ne peut pas considérer comme exhaustif. Ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est les données qui sont essentiellement concentrées dans les agglomérations secondaires et les capitales de cité. Mais bon, c'est aussi l'histoire de la recherche qui est en cause dans ce cas-là. Dans ces cas-là, le vide qui est ici est juste un vide de la recherche et des données consultées, voire accessibles, parce qu'il y a des sites fouillés ici. Rezé est en cours d'étude et il y a des productions céramiques et liées à la matière dure animale et liées aux métaux également. Mais pour les exemples que j'ai pris, on remarque que quasiment à chaque fois, les métaux et les matières dures animales se retrouvent associés. C'est simplement une démonstration que ces artisans sont présents partout, que ce sont des artisans qui sont à l'échelle de la région, implantés sur tous les lieux où il y a un potentiel de distribution et donc où la population se trouve. David, avec qui je discutais, David Guiton, me disait je suis aussi certain que chaque agglomération secondaire possède son propre atelier de céramique, voire 16 ateliers de céramique, et qu'il y a des productions à échelle réduite, juste pour répondre à une consommation immédiate. Si l'on regarde de plus près pour les deux capitales de cité où ces artisans sont implantés, bon, Poitiers, je dirais que les recherches sur l'artisanat à Poitiers devront être développées pour peut-être qu'on les cerne mieux. Mais ce que l'on peut constater, ou du moins ce que j'ai pu rassembler comme information, c'est qu'effectivement, il y a souvent travail de l'os et travail des alliages cuivreux, c'est les points bleus et jaunes associés, souvent avec attestation de travail du fer également. La boucherie est repérée en association directe avec le travail de l'os à deux endroits, mais c'est aussi là un état des données disponible. Et que pour le Haut-Empire, ces artisans, d'après les données toujours collectées, sont installées dans la ville, voire dans les quartiers où l'on sait qu'il y a une forte activité commerciale et artisanale. Pour le Bas-Empire, c'est le quartier de l'ancien évêché encore qui a été le plus étudié et on s'aperçoit que l'artisanat y perdure, notamment celui des matières dures animales avec des productions et l'exploitation aussi du bois de fin, animaux type bœuf et aussi animaux type bois de cervidés et que cet artisanat-là un petit peu d'installation légère perdure toujours dans ce secteur, donc y compris à l'intérieur du rempart du Bas-Empire. Mais pour Poitiers, il faut espérer qu'on ait à l'avenir des données plus parlantes sur le sujet. À Saintes, les opérations archéologiques ont été plus nombreuses et permettent de dresser une carte un petit peu plus détaillée des diverses activités artisanales dans les différents quartiers et zones de la ville. C'est surtout dans la portion ici que se trouvent ces activités artisanales. Le quartier d'Obono, dont je vous parlais tout à l'heure, se trouve ici, avec la boucherie, le travail de l'os. Et ce qui est observé à Saintes de façon assez significative, c'est qu'au fil des siècles, soit l'artisanat est présent et cède la place aux habitats ensuite, notamment aux grandes domus dans certains quartiers, soit les artisanats perdurent, on va dire, du 1er au 3e siècle et changent de nature, les potiers laissant la place aux métallurgistes ou inversement selon les cas. Ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est d'avoir une lecture d'une trame urbaine qui intègre complètement l'artisanat et qu'en même temps, il y a une activité économique qui évolue en parallèle de l'évolution de la ville. Mais là aussi, il faudrait sans doute reprendre les données de façon beaucoup plus précise pour lire ça beaucoup plus nettement. La publication de la carte archéologique l'année dernière de Saintes a permis d'éclairer beaucoup cet aspect-là des choses. Donc souvent, d'autres artisanats sont présents, le tissage par exemple, que l'on considère comme une activité effectuée dans les foyers, certes par les femmes, mais on sait aussi qu'il y a des ateliers et il y a des lainiers, vous verrez tout à l'heure, on l'a vu dans l'image de tout début, qui sont attestés par l'iconographie à Saintes. Donc il y a cette activité-là aussi qui est souvent très liée à l'activité des matières dures animales, sans doute parce qu'aussi le statut social de ces artisans était sans doute proche et qu'on les retrouve associés à plusieurs reprises dans différents quartiers, comme ici, là. C'est-à-dire qu'on a les triangles et les ronds gris. Donc là, il y a des observations à faire intéressantes sur les associations dans les différents quartiers et aux différentes périodes des artisans. Pour finir, j'ai emprunté à David Guiton et à David Bruni leur cartographie des ateliers de potiers attestés et supposés, sachant que David m'a bien dit qu'elle n'était pas forcément à jour, qu'il y en avait un ou deux qui étaient depuis repérés, mais c'était pas très grave. Ce que moi je voulais montrer, c'est que cet artisanat céramique, il est présent comme le sont les artisanats des métaux et des matières animales, que tout ce petit monde, si j'ose dire, est lié et s'installe dans les milieux urbains et semi-urbains le long des axes routiers. Évidemment, ça paraît presque une évidence, puisque là, c'est à la fois une fonction économique et pratique qui est en jeu. Et j'espère que cette carte, qui est la carte de base, on va dire, du PCR en cours, pourra être complétée au fur et à mesure des données et qu'on la complétera aussi sur les artisanats du verre, sur les artisanats des métaux, etc., sur les différents aspects de ces artisans et de leur existence dans un territoire. Là, c'est le territoire Picton, mais la carte est amenée à s'étendre vers le territoire Santon. Voilà pour les productions, les artisans tels que je voulais vous les montrer dans ce centre-ouest. Et surtout, je voulais un peu mettre l'accent sur le fait qu'ils sont à la fois visibles et peu visibles. Parce que oui, leurs produits sont là, les structures de production aussi, mais pas toujours de façon très évidente, et qu'il faut souvent que l'archéologue et les chercheurs se forcent à les chercher pour les trouver. Donc ça, c'est une idée à retenir, parce que c'est aussi l'avenir des recherches qui fera que nos connaissances évolueront. Donc, pour conclure, je voudrais juste dire que l'avancée de nos connaissances donc sur ces productions artisanales et sur l'économie en centre-ouest, au moins sur les territoires pictons-santons, s'il faut se réduire à eux, dépendra de l'exploitation des données récentes. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Et de la volonté aussi des acteurs de l'archéologie de les mettre en commun. Et c'est pour ça que je remercierai toutes ces personnes parce qu'elles ont voulu collaborer en fournissant des données et des documents. Et qu'aussi, cette recherche évoluera en fonction des moyens qu'on voudra bien lui donner, comme dans tous les autres domaines de l'archéologie. Voilà. Vous avez peut-être des questions parce que je crois que j'ai...
Alors, quels sont les grands artisanats?
J'avais utilisé l'expression petits artisans un peu par provocation puisque les potiers sont étudiés voilà depuis longtemps, les verriers aussi, mais que ces artisans
d'accord, c'est par rapport à d'autres. Non, j'avais pas compris. Je pensais que tu pensais, tu parlais
de
la construction, la mise en œuvre des bâtiments, etc., etc. En fait, on est quand même effectivement c'est provocateur comme titre parce que quand on voit la mise en œuvre quand même, la fabrication du bronze, enfin de l'alliage cuivreux. Évidemment, là, on est quand même dans des niveaux de sophistication.
Ah oui, du point de vue de technique très, et de leur maîtrise, il n'y a pas de petits et de grands artisans.
Je dirais voilà. Même, c'est même parfois plus évolué que les potiers, parce que les potiers, ils font tout un peu n'importe quoi. Hein, même ici, hein, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est l'Occident, mais
bien sûr. Ce
n'est pas toujours terrible. Hein.
Mm-hmm. Non, c'était plus... Ce terme-là faisait plus appel à, en fin de compte, leur degré de visibilité. Qui est moindre si on ne l'aborde pas différemment que les potiers, leur grande production, les marques, les diffusions des grands ateliers, oui. etc. Il faut aller au-delà. Bon, on connaît les grands bronziers aussi, producteurs de statuaires, etc. Mais les petits bronziers qui ont fabriqué les objets du quotidien.
Mais est-ce qu'on peut quand même vraiment. Ces objets du quotidien, ils ont quand même une qualité de mise en œuvre, un savoir-faire qui est tel que. Je me demande quand même si c'est le fruit d'ateliers vraiment si individuels.
Alors, il y a les deux systèmes, a priori, au vu des recherches. Il y a deux types d'ateliers. Ce qui a été mis en évidence par d'autres analyses, à partir de différents des fibules notamment, c'est qu'il y a des fibules d'un type... C'est-à-dire il va y avoir un modèle à la mode qui va être produit par des ateliers régionaux sous forme de copies, de moindre qualité, mais qu'il y a toujours des ateliers aussi producteurs de fibules de qualité supérieure. Mais se mettent en place ces deux types d'artisanat. Mais tant qu'on n'aura pas fait... Alors ça peut être abordé simplement par l'observation des objets et de leur qualité, de leur finition, quand ils nous parviennent correctement. Mais ce qu'on ne peut pas, l'aborder davantage si on ne fait pas des analyses des alliages utilisés. Parce que malgré tout, les alliages utilisés ont leur importance. C'est ça. Et souvent, on a dit oui, mais le fait que le bronze est recyclé quasiment pendant toute la période fausse un peu les observations physico-chimiques. Il est clair qu'on peut distinguer s'il s'agit d'alliage avec de recyclage ou pas, selon les teneurs en certains métaux, si elles sont plus ou moins importantes. Donc, c'est possible. Enfin, ça a été fait par des chercheurs et c'est possible. Mais bon, vu la production, par exemple, la fibule, c'est un objet tellement produit et porté que c'est évident qu'il y a des ateliers à peu près partout. Hein. Bon. Après, pour les strigiles, c'est évident qu'en revanche, c'est plutôt des productions qui arrivent d'Italie et des ateliers qui se situeraient en Gaule, il y en a peut-être quelques-uns. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de données. Mais pour tout ce qui est objet courant, en même temps, on en a beaucoup discuté avec Michel Pernaud, c'est évident qu'il y a quand même les bronziers gallo-romains maîtrisent la technique pour les faire. Hein, donc, le problème, c'est qu'on trouve rarement les moules. Donc, ça fausse complètement notre approche aussi. Mais techniquement, ils sont tout à fait aptes à faire des objets très élaborés. Tous les petits objets de soins avec des décors, des incrustations, a priori, ils sont capables de les faire.
J'aurais peut-être une autre... Enfin, plus une remarque qu'une question, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus, tant en Occident qu'en Orient, de ces frontières qui s'évanouissent entre l'habitat, l'artisanat, les sanctuaires, l'artisanat, où on fait, en fin de compte, on avait des visions qui étaient très tranchées, et cela évolue, enfin disons évolue en fonction de fouilles un peu plus fines,
voilà,
où on se rend compte que, et surtout les artisanats, les sanctuaires, ça c'est quelque chose aussi en Orient, on travaille de plus en plus sur ces questions-là.
Et bon, c'est vrai que en Occident, moi, je connais pas trop de sanctuaires où on est tenté d'aborder le sujet. Par le biais d'Antigny, on a la chance d'avoir pu toucher du doigt le fait qu'il se passe quelque chose entre le sanctuaire et l'extérieur, et le monde artisanal notamment. Enfin, le fait qu'à un moment donné, des artisans soient autorisés, entre guillemets, à s'installer dans l'enceinte du sanctuaire, y travaillent. Que pour celui qui travaille l'os, on sait qu'il ne travaille pas, il ne va pas au-delà de récupérer la matière première. Ça va à l'extérieur ensuite. Et pareil, la viande, enfin, Marilyn Salin a mis nettement en évidence que certains morceaux de viande qui ne sont pas utilisés dans le sanctuaire pour les offrandes partent nécessairement à l'extérieur du sanctuaire.
C'est le cycle, c'est la réutilisation.
Et ça, on sait par des textes et certaines lois qui réglementent des sanctuaires italiens les sanctuaires sont autorisés à commercialiser les peaux et la viande. A priori, en Occident, dans certains sanctuaires gallo-romains, il y a une sorte d'économie qui existe aussi.
Et je me demande si à Lonne, s'il n'y a pas ce facteur.
Je ne sais pas s'ils ont mis ça en évidence.
Sûrement. Véronique Brouquier, il me semble qu'elles avaient trouvé des traces d'artisanat à l'intérieur de l'enceinte.
Oh, mais je pense que elles ne sont pas rares, quoi, les traces artisanales. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne les a pas. Ça sera l'occasion sans doute d'une rencontre sur ce sujet.
Et oui.
Par le biais d'Instrumentum.
Non, il faut enregistrer. Non, c'est enregistré. C'est la consigne.
Il ne faut pas oublier que dans les structures d'Antigny, on a trouvé pour à peu près la même époque, au niveau de la stratigraphie, un enclos qui montre qu'on avait un regroupement probablement d'animaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du sanctuaire, on avait un enclos. Ce qui veut dire qu'il faudrait toujours raisonner en chaîne opératoire. C'est-à-dire que nous, quand on est archéologue, on fait une chaîne opératoire pour découvrir les contextes, puisque notre fouille, c'est jamais qu'une chaîne opératoire. Et les artisans, ces chaînes opératoires de contexte, finalement, rencontrent les différentes chaînes opératoires utilisées par les acteurs, soit des chaînes opératoires de producteurs, soit des chaînes opératoires d'artisans, soit des chaînes opératoires de commerçants. Et finalement, on voit bien, il y a une articulation de ces chaînes opératoires. Et quand on voit les artisans qui passent d'un endroit à un autre, c'est normal. La plupart du temps, leur structure d'outillage ou leur structure d'endroit pour travailler sont très légères. Donc, ils peuvent butiner dans un site, c'est-à-dire changer d'emplacement. Alors, sans vouloir faire voir des comparaisons trop avec des époques plus récentes, mais il faut savoir qu'on commence juste à étudier dans certaines villes, pour le 19e siècle, les changements d'artisans. Et on voit des villes où les artisans, tous les deux ans, changent de boutique. Ils se déplacent dans des endroits de 20 mètres, de 30 mètres, de 40 mètres. On peut imaginer trouver à peu près les mêmes choses. Et plus la fouille sera précise, plus les contextes seront précis, plus on arrivera à dire tel artisan, tel producteur, avec les analyses des vestiges trouvés, des restes trouvés, a changé d'endroit. Et on va les trouver probablement qui peuvent faire 20 mètres, 30 mètres, voire 50 mètres. Sur 20 ans, sur 30 ans. Parce que la stratigraphie, la contextualisation des objets, c'est à mon avis la grande aventure de demain pour l'archéologie, qui n'était pas pris en compte, et surtout pas pour des objets comme ça. Ce qui veut dire que pour l'époque romaine, il faut que la fouille soit aussi précise que pour toute fouille préhistorique.
C'est leur présence vraiment très imbriquée dans la ville. Enfin, ils sont là, ils sont à la base de la population. En même temps, ils sont consommateurs, producteurs. Enfin, à Sainte, j'ai l'impression que c'est d'une évidence. Dans le quartier d'Obono, ils vivent là, ils produisent et c'est nettement visible, quoi.
J'ai écouté le monsieur qui parlait là, ça m'a touché beaucoup parce que ça relie une observation que je venais de faire en voyant les outils que vous avez trouvés à ces noms.
Oui.
Et je ne sais pas si je suis en fer ou en bronze, peu importe.
En fer. En fer.
Alors,
oui.
Ça confirme ce que je pense profondément. Quand j'étais jeune homme en Italie, j'ai travaillé sur des sculptures, sur des tuyaux de pierre. Et dans la vallée où j'habitais, il y avait des petites forges. Et les petites forges, après, sont devenues des grandes industrielles contemporaines avec des gros fours. Mais à l'origine, quand j'étais petit, c'était vraiment des petits artisans.
Oui.
Et le maître sculpteur où j'étais, il m'envoyait souvent chercher ses outils, ses tels forgerons. Et le forgeron qui, à l'origine, était dans son petit village avec un petit ruisseau, petit à petit, il a eu les sous, il a transféré vers la grande rivière. Et là, il a construit l'usine.
Oui.
Et j'étais assez charmé par ce que madame et monsieur venaient de dire, et votre exposé, cet artisan qui bouge, qui bouge, qui bouge. Et puis, un autre effet qui m'a touché aussi, toujours dans ma jeunesse, c'est que chez nous, les bouchers, au village et dans les bouches de la ville, ils étaient souvent accompagnés pas très loin du mouleur de couteaux, qui est aussi forgeron parce qu'il avait son charbon, il avait son trépied là, sa petite forge.
Ouais.
Parce qu'autrefois, on ne moulait pas le couteau comme aujourd'hui à Poitiers. Vous portez le couteau, il le meule à sec, avec un meule électrique. Là.
Ouais.
Autrefois, tous les outils, ils étaient réchauffés à rouge.
Ouais.
Et après, on faisait le fil. Et il me semble qu'à travers les outils de ces noms, pour le tailleur de pierre que je suis et de mes souvenirs, qu'au début du siècle, même les Italiens qui venaient chez vous à souvenir et travailler, il y en a eu beaucoup,
oui.
On trouve la même pique, on trouve les mêmes gusses. Et ça, c'est assez.
Oui, ils sont un peu plus
oui,
travailler les carrières.
Ça varie un peu, mais on les voit, on les sent. Et ouais. Ça, c'est assez touchant.
C'est Martin.
Ça marche, oui. Moi j'avais une question, c'est peut-être une vision un peu contemporaine des choses, mais est-ce que à travers l'évolution des techniques, on perçoit une volonté des artisans d'améliorer une rentabilité entre guillemets ou une vitesse de travail? Est-ce qu'on arrive à percevoir des choses comme ça à l'échelle de la période romaine par exemple ou sur un plus long terme?
Tu veux dire sur quel matériau là? Sur
ces petits objets
en bronze ou
plutôt en bronze, oui, peut-être.
Ça je pourrais pas. Enfin, moi, je suis pas en mesure de lire ça. Enfin, je suis pas une spécialiste de la physico-chimie, hein, donc je me présente pas comme telle. Mais de la rentabilité, je pense que tous les artisans, à un moment donné, la cherchent. À un moment donné, pour la fabrication de certains objets avec un décor très poussé, etc. Je pense que la qualité a peut-être prévalu sur la rentabilité. Mais c'est difficile, enfin, pour l'époque, on ne palpe pas tellement ça.
Et archéologiquement, c'est...
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Des séries assemblées ce qu'on perçoit, c'est une évolution dans les alliages, en fin de compte, utilisés au fil du temps, avec une tendance à avoir l'insertion du plomb et du zinc à la fin de la période romaine, parce que l'étain et des choses comme ça deviennent plus difficiles à obtenir. Mais ça se lie à une échelle... C'est assez global comme évolution, et puis c'est lié aux conditions plus économiques qu'autre chose. Je pense que ça, il faudrait peut-être plus en discuter avec les spécialistes du bronze, comme Michel Pernaud, qui travaille, tu vois, qui connaît plus, lui, le travail du bronze de l'intérieur, je dirais. Moi, je saurais pas répondre à ce genre de choses. Je ne vois pas ça au travers des objets que j'étudie.
D'accord.
C'est difficile. Mais en revanche, la complémentarité dont on parlait tout à l'heure, elle est évidente. Hein, que le bronzier soit très souvent associé ou dans le même bâtiment parfois. Hein, à De Bono, ils sont quasiment installés dans le même bâtiment. Ils partagent peut-être pour des raisons économiques le bâtiment. Ça paraît ça paraît possible. Ils sont complémentaires parce qu'ils font fabriquer un couteau avec un... Ils vont prendre la lame chez le forgeron, et puis la virole, et puis le manche en os décoré. Bon, tout ça, ils sont tous complémentaires là, dans ce cas de ces artisans-là. Donc, ils ont intérêt à se regrouper. Enfin, je veux dire, il y a une logique. Hein. Il y a certainement aussi une logique de rentabilité à un moment donné qui est mise en place, mais archéologiquement, je pense qu'on la palpe difficilement. Peut-être plus sur les ateliers de potiers, non ? Je te retourne la question.
Pour les ateliers de potiers, enfin, moi, à l'échelle des ateliers que j'ai étudiés, c'est des ateliers de céramique commune, donc c'est des productions qui sont des productions de la vie courante et pas des productions dites de luxe ou de semi-luxe, donc on reste dans des choses assez simples et assez sobres, on va dire.
Oui, pas besoin de tellement peaufiner la qualité, mais après, c'est plus en quantité produite, ou peut-être on pourrait voir s'il y a une augmentation. Et... Mm-hmm. Mais ça peut se faire que sur des ensembles assez complets. Hein.
Pour le percevoir, c'est...
Il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci bien, madame.
Merci à vous.
Merci. La prochaine conférence est le 3 mars. Alors, je vous souhaite bien sûr bonne fête de fin d'année, mais j'espère vous voir d'ici là quand même. La prochaine conférence du séminaire est le 3 mars. Voilà. Mais il y aura d'autres conférences d'ici là, bien entendu. Merci à tous en tout cas.